Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait pratiquement, dans chaque mot qu'on utilise, se poser la question de quel effet il a sur le monde.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Comment converser? C'est la grande question qui va nous occuper. Nos deux invités, Delphine Horviller et Nathalie Skovronek. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit? Avec Pascal Claude.
Ça n'a jamais autant parlé, causé, commenté, brouhaha permanent et assourdissant. Au fond de nos oreilles, un insupportable grésillement. Ici et là, on parle encore et encore. On en oublierait de respirer. On défend ses arguments, la parole de l'un contre celle de l'autre. Non, c'est moi qui ai raison, pas toi. Et je vais te le prouver, même si au fond, j'en suis pas si persuadé. Pourvu que ça soit clivant et que je reste bien dans mon camp. Et regardez comme j'utilise des mots et des slogans coupants. Allez, viens, on va se déchirer autour des brûlantes questions d'actualité et de société. Mais tiens, au final, ça sert à quoi d'avoir raison? On parle, chacun dans son coin, coin devenu camp. Mais est-ce qu'on se parle vraiment? En sommes-nous capables? Et je dirais même plus précisément, sommes-nous encore en mesure de converser? Converser, étymologiquement, conversari, c'est-à-dire non seulement échanger des propos, mais aussi et surtout vivre avec. L'essayiste Marielle Massé commente, vivre avec, revenir souvent auprès de quelqu'un, côtoyer, fréquenter et se fréquenter, verser dans, se mêler, fraterniser entre vivants. Et elle écrit aussi, il s'agit peut-être de inventer des façons de s'entretenir, de tenir les uns aux autres et par les autres, de près, de loin. Bref, on comprend qu'il n'est plus question ici d'opposer des blocs de vérité verrouillés ou carrément rouillés, mais de s'ouvrir à une sorte de perméabilité, de laisser percoler la parole, voire la pensée. Alors évidemment, je me demande, ne serait-il pas plus qu'urgent de reprendre la conversation?
Dans quel monde on vit?
Mais qu'en disent nos invités avec lesquels nous allons vivre avec pendant une cinquantaine de minutes? Je vous les présente. Delphine Horviller, vous êtes née en 1974, vous êtes rabbin de l'association Judaïsme en Mouvement en France. Vous êtes écrivaine et autrice de plusieurs textes, dont le dernier a pour titre « Comment ça va pas ?» Conversation après le 7 octobre, c'est-à-dire depuis les attaques du Hamas en Israël. Nathalie Skovronek, vous êtes née, vous, en 1973. Vous êtes écrivaine, petite fille de déportée par le passé. Pendant 7 ans, vous avez évolué dans le prêt-à-porter portée pour femmes, comme vous nous l'avez raconté dans votre œuvre. Vous avez ces dernières années animé un atelier d'écriture dans un centre de jour pour adultes souffrant de difficultés psychiatriques. Vous vous arrêtez sur cette expérience dans La Voix des Saules, votre nouveau livre, expérience qui vous a transformé. Nous en parlerons. Mais d'abord, la potentielle urgence de la conversation. Conversation, mot qui est dans le sous-titre de votre nouvel essai, Delphine Horviller. Quel crédit lui accordez-vous à la conversation, Delphine Horviller?
Moi, je crois, pour le dire, pardon, de façon un peu grandiloquente, que c'est la seule chose qui peut nous sauver. Aujourd'hui, j'ai la conviction que,
carrément,
plus que jamais, on a besoin de reprendre la conversation. Moi, j'ai écrit ce livre parce que j'avais l'impression qu'elle était interrompue, que j'arrivais pas à la retrouver ni pour moi, ni chez les autres, que je trouvais pas les mots pour parler à mes proches, à mes enfants, après le 7 octobre, et que j'avais l'impression qu'on m'adressait des mots qui étaient comme erronés. Il y avait une faille de langage. Personne trouvait les mots autour de moi. Et j'ai réfléchi, c'est vrai, ces dernières semaines, à la force des conversations. En vous écoutant parler des origines et de l'étymologie, il y a un
instant
de la conversation. Oui, je me disais que c'est aussi proche d'un autre mot, qui est le mot « conversion ». En réalité, la conversation, quand elle est bien menée, elle a le pouvoir, non pas de nous convertir, mais potentiellement de nous changer, de faire qu'après la conversation, on ne soit plus exactement les mêmes. Or, aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut dans nos dialogues qui ne sont plus des conversations pour s'assurer que l'autre n'a aucun impact sur nous, qu'en fait, on a un avis. Et qu'en parlant avec lui, on va surtout pas changer. Et si on n'est pas prêt à changer, à quoi bon parler?
Qu'est-ce que ça représente pour vous, la conversation, Nathalie Skovronek?
Écoutez, j'ai été longtemps une adepte de la conversation qui ne nous déplace pas, où on parle, mais en fait, on parle un peu de façon superficielle, on parle pour ne rien dire, et les échanges restent très minimes, et chacun reste à l'endroit où il est. Et c'est vrai, on en reparlera, que cette expérience en psychiatrie a montré que ce genre de parler pour ne rien dire, c'était pas très intéressant, et surtout, pour eux, ça ne leur suffisait pas. Et les événements qui sont arrivés ces dernières semaines, ces derniers mois, ont fait qu'on a eu... Moi, j'ai eu un rapport à la conversation beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, je n'osais plus dire. Je suis arriver dans une conversation, j'avais l'impression que tout ce que je pourrais prononcer était sujet à difficulté. Donc je me suis beaucoup tue, et je disais justement à Delphine Orvilleur quand elle est arrivée, que le fait qu'elle, très tôt, je me souviens, le 7 octobre, c'était un samedi, que dès le lundi, je l'ai entendue à la radio mettre des mots, et ça nous a aidés parce que moi, je n'arrivais plus à me mettre en conversation.
Nathalie Skovronek et Delphine Orvilleur, vous êtes nos invités cette semaine. Salut Gilles.
Salut Pascal.
Gilles Bartholins, vous êtes historien et écrivain. D'ailleurs, votre nouveau roman, L'Occupation du Ciel, vient de sortir. Vous êtes aussi auteur de lettres, lettres que vous venez régulièrement nous partager. Vous avez décidé d'écrire à qui cette fois-ci ?
Je vais écrire à Aya Nakamura.
Aya Nakamura, c'est qui ça ?
Oh, dja dja, y a pas moyen, dja dja.
Et en toutes lettres, c'est dans une micro demi-heure. Et là tout de suite, nous faisons plus ample connaissance avec nos invités à l'aide de leur selfie sonore. Elles ont choisi un son qui est pour elles une sorte d'autoportrait. Delphine Orvilleur, voici le vôtre. C'est une chanson pour les enfants très connue en Israël et chantée ici en arabe. Je vous laisse commenter Delphine Orvilleur.
Oui, je me rends compte que, en plus de la conversation, ce qui m'a pas mal sauvée ces dernières semaines, c'est la musique.
Et
j'ai choisi là une musique, les voix. Souvent, les voix de femmes. Je me rends compte que la nuit, dans mes insomnies, j'ai passé beaucoup de musique. On entendait des voix féminines qui m'apaisaient un peu. Et cette chanson, c'est une chanson très connue en Israël, que tous les enfants connaissent en hébreu, mais peu de gens la connaissent dans sa version arabe. Alors, vous percevez évidemment, pour moi, le symbole de la faire écouter comme ça, en fait, de faire résonner évidemment ces langues tissées l'une à l'autre, quand elles ont tellement de mal aujourd'hui à se parler.
Et nous écoutons à présent votre selfie sonore, Nathalie Skovronek.
Si j'étais moi, mille pages à écrire, ni de trouver les mots pour le dire, ne me ferait peur. Mais je me lâche la main, je m'éloigne de moi, je me retrouve au matin sur la mauvaise voie.
C'est un extrait de Si j'étais moi de Zazie, chanson que vous citez dans votre livre. Vous vous êtes longtemps et souvent éloigné de vous-même, Nathalie Skovronek ?
Bah écoutez, je pense que c'est une musique que j'écoutais en boucle avant de commencer à écrire. Et c'était vraiment ce moment avant de faire le grand saut. Et effectivement, je l'ai beaucoup écoutée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je reste extrêmement attachée à cette chanson et extrêmement à l'écoute de ceux qui ne se sont pas encore rejoints.
Voilà pour vos selfies sonores et nous enchaînons avec quelques sons qui traduisent l'actualité de ces derniers jours. Depuis lundi, c'est le Ramadan et toujours pas de cessez-le-feu à Gaza.
Ce Ramadan a le goût du sang et de la misère, de la séparation et de l'oppression.
Un an de prison ferme pour Dries Van Langenhoff. L'ex-député Vlaams Belang a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Gand pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme.
On ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a vraiment des limites à la liberté d'expression. Ces limites sont claires et voilà, le juge a décidé clairement aujourd'hui.
David contre Goliath, un agriculteur wallon attaque en justice le géant pétrolier Total Energy. C'est qu'il prend en pleine face les changements climatiques.
Notre métier est très dépendant du climat. Total Energy est une des principales carbon majors, donc responsable de l'exploitation des ressources fossiles de la planète. Et à ce titre-là, ils ont une responsabilité très importante dans les changements climatiques.
Enfin, samedi dernier, c'était les Magritte du cinéma.
Le harcèlement, l'abus de pouvoir, le viol ne font plus partie du processus de création d'un film, n'ont jamais fait partie de ce processus. Le harcèlement, l'abus de pouvoir, le viol ne feront plus jamais partie de ce métier ni des autres métiers, d'accord.
Et c'est à vous à présent d'identifier un élément de l'actualité qui vous a marqué cette semaine. Nathalie Skovronek d'abord.
Alors moi, si je veux être tout à fait honnête, ce que j'ai
Soyez-le.
Suivi avec beaucoup d'intérêt, c'est la photo retouchée de Kate Middleton qui est passée sur les réseaux, enfin qui a fait la une de l'actualité avec cette idée qu'elle avait été outruquée ou photoshopée. Chacun mettra le mot qu'il veut là-dessus. C'est complètement dingue d'avoir un tel engouement pour cette question-là, pour la question de Kate Middleton, dont finalement, c'est la belle-fille du roi. Enfin, il y a quelque chose aussi qui vient du monde ancien. Normalement, on vit dans un monde où ces préoccupations-là, ces personnes-là, jouent un rôle aujourd'hui tellement minime. Et puis, on voit que les rois, les reines, cet ancien régime, ça fonctionne encore. Ça reste subliminalement encore en nous.
Gilles,
c'est le troisième essai raté du vaisseau Starship de SpaceX, mercredi dernier. Et ce vaisseau qui est censé quand même faire revenir les hommes sur la Lune en 2026 et viser Mars pour sa colonisation. Et c'est un essai qui est considéré comme réussi, selon la stratégie américaine, de montrer même les échecs pour ensuite valoriser la réussite. Et moi, je trouve que ce serait bien quand même qu'on n'y parvienne jamais pour le bien de la Terre et de l'humanité. Et cet horizon, ça ressemble un peu au faux lapin derrière lequel courent des lévriers dératés.
Delphine Horviller.
Moi, je pense sans doute à ce qui s'est passé il y a quelques jours à Sciences Po, cette grande école tellement reconnue à Paris, une grande école de la République, grande école de formation aussi, de ce qu'on appelait, on appelle parfois les élites, et où il y a eu des manifestations qui ont pour le moins mal tourné ces derniers jours, avec apparemment l'énoncé de slogans antisémites, le rejet de certains étudiants qualifiés de sionistes qu'on n'a pas laissé rentrer dans des amphis. Et je me dis que c'est fou de se dire qu'on vit aujourd'hui un tel rejet de l'autre dans des lieux qui sont censés incarner précisément l'élévation intellectuelle, la culture, l'accueil de l'autre, peut-être l'empathie.
C'était vos temps forts de l'actualité. Et nous revoilà le 7 octobre 2023.
Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens.
Une attaque au petit matin qui va surprendre tout un pays.
C'est le Hamas. C'est le Hamas.
C'est incroyable pour les Israéliens. C'est une sidération totale.
Où sont tous les responsables de la sécurité? Comment ont-ils fait quelque chose comme cela? Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien?
Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre, c'est le titre de votre nouvel essai, Delphine Horviller, un texte intime où s'expriment vos vulnérabilités et vos fantômes, livre traversé aussi par des touches d'humour. Tiens, justement, est-ce que l'humour vous aide depuis le 7 octobre 2023?
Je ne sais pas si il m'aide, mais j'ai l'impression que je ne peux pas faire sans ça. En fait, l'humour en général et peut-être l'humour juif en particulier font partie de ma vie. Et je crois qu'ils sont, c'est vrai, des recettes un peu ancestrales de ce qu'on appelle communément la résilience. C'est-à-dire le fait de se dire qu'on va réussir malgré tout, malgré la tragédie, à rester debout. En fait, l'humour, et l'humour juif spécifiquement, c'est une façon de mettre la tragédie, le tragique à distance, en faisant... En jouant parfois avec les mots ou alors en s'engageant dans une forme d'autodérision, c'est-à-dire une distance par rapport à soi, par rapport au moi qui souffre, et se dire qu'on n'est pas simplement des victimes de ce qui nous arrive, mais qu'il y aura une possibilité, qui que l'on soit, de nous relever de notre histoire douloureuse.
Est-ce que vous avez vraiment songé à l'écrire sous un pseudo, ce nouveau livre? L'hypothèse, elle circule dans votre texte, Delphine Horviller.
D'abord, je dois dire que je n'avais pas l'idée d'écrire un livre en l'écrivant. Je l'ai écrit parce que ça n'allait pas du tout. Mais encore une fois, je ne suis pas la seule qui allait mal ou qui va mal. Mais j'ai eu le sentiment que ça n'allait tellement pas que je cherchais, un peu comme on écrit un journal intime, à rester debout. L'image que j'avais constamment en tête, c'est que le sol s'était dérobé sous mes pieds et je ne savais plus sur quel lieu marcher. En fait, tout semblait s'effondrer. J'ai commencé à écrire beaucoup la nuit et je me suis mise à écouter les voix dans ma tête, à défaut de conversation extérieure. J'ai commencé à entendre effectivement les fantômes, pas littéralement, je vous rassure, mais j'ai entendu les voix de mes grands-parents me parler, les voix du passé, voir comment est-ce qu'ils ressurgissaient dans ma tête, et pas que dans ma tête, parce que beaucoup de gens autour de moi me racontaient la même chose, qu'ils étaient en conversation avec le passé, avec leurs démons, leurs héritages, leurs traumatismes, ce qu'on leur avait dit et ce qu'on leur avait pas dit. Et donc, c'est devenu un livre un peu malgré moi que j'ai décidé de publier pour le partager. J'aurais pu l'écrire sous pseudo, ne serait-ce que parce que la police m'a bien souvent ces derniers temps conseillé de prendre des pseudos parce que la situation de ma protection ou celle de mes proches était engagée.
Pseudo pour réserver une table au resto, pseudo pour réserver un taxi, c'est des conseils que vous avez suivis ?
Partiellement, oui, je le raconte dans le livre que on m'a dit attention. Et encore une fois, je suis pas du tout la seule à avoir vécu ça. Hein. Beaucoup de gens m'ont témoigné de ça autour de moi que les services de sécurité, la police leur disaient ah, peut-être vous devriez changer votre nom sur la boîte aux lettres, enlever la mezouza sur votre porte, ce petit boîtier qu'on pose sur les linteaux dans les maisons juives, changer de nom quand on réserve un taxi. Et donc effectivement, j'ai suivi partiellement ces consignes. Je raconte dans le livre qu'avec mes enfants, on en a plaisanté même, on s'est inventé tout un tas de pseudos plus ou moins ridicules. J'ai commandé des taxis sous le nom de Jane Wayne et Sylvia Stallone pendant quelques semaines. J'ai choisi des héros américains pour me sentir un peu plus forte.
On en revient à l'humour.
Oui, mais autant en rire, parce que c'est difficile d'en témoigner en 2023 ou 2024, de se dire qu'on vit ça. Ouais. Et donc, voilà. Mais ce que je dis là, bien entendu, c'est compliqué d'en parler, parce que quand j'en parle, j'ai tout de suite des gens qui m'écrivent et qui me disent « Oui, mais il y a d'autres gens qui souffrent, et la souffrance des autres, et la souffrance du, entre guillemets, camp d'en face », comme si on était là dans une compétition, dans une balance de qui a le plus souffert, qui a le plus mal. La souffrance des uns, elle invalide jamais la souffrance des autres. Et c'est pas parce qu'on raconte la sienne qu'on est en train de dire que d'autres gens sont pas en train de vivre des horreurs, et souvent bien pires que ce qu'on vit nous, évidemment. Mais pourtant, je pense qu'il faut le raconter. Et peut-être que j'ai choisi de le raconter avec mon nom pour que, oui, ça porte un peu plus. Mais je crois qu'on doit l'entendre, on doit écouter tous ces témoignages aujourd'hui plus que jamais.
Et vous racontez notamment la peur depuis le 7 octobre. Vous écrivez « Le monde cherche à nous rassurer » et vous ajoutez « Celui qui n'est pas héritier de cette peur ne peut comprendre ni ce qu'elle convoque, ni ce qu'elle provoque. » Est-ce que vous pouvez tenter de nous faire comprendre, Delphine Horvilleur ?
En fait, pour beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de juifs français, mais j'imagine que c'est un peu partout pareil en Europe ou même dans le monde, ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas simplement un événement d'octobre 2023. En fait, ce qui se passe vient réveiller des fantômes du passé et la conscience d'une résurgence permanente dans notre histoire, d'une menace. Et en fait, faire comme si c'est simplement un événement ponctuel qui n'aurait rien à voir avec le passé est problématique. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de répéter à l'identique, ça ne veut pas dire que l'histoire bégaye. 2023, ce n'est pas 1933, ce n'est pas 1940, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose de récurrent dans la menace antisémite qu'il faut pouvoir entendre parce qu'elle se nourrit toujours des mêmes choses. Elle construit toujours le même discours. Il y a un discours, par exemple, récurrent dans la haine des Juifs, qui a à voir avec le pouvoir qu'on leur prête, le contrôle supposé qu'ils ont. À travers l'histoire, toujours, on a accusé les Juifs d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, de pouvoir quelque chose qu'on ne pourrait pas, de savoir quelque chose qu'on ne saurait pas. C'était vrai au Moyen-Âge, c'était vrai dans l'Allemagne du siècle dernier, c'était vrai en Europe, et ça reste vrai. Et c'est aussi ce qu'on prête aujourd'hui dans un certain discours antisioniste. On pourrait revenir longuement sur ce terme. On a le droit de critiquer Israël, sans doute qu'on doit critiquer Israël.
Ce que vous faites d'ailleurs.
Oui, ce que j'ai fait en bien des occasions, sans qu'on ait besoin d'inventer un mot pour cela. Pourquoi est-ce que Israël serait le seul pays qu'on critiquerait en inventant un mot qui questionne sa légitimité d'existence? Ça n'a aucun sens. Mais c'est important aujourd'hui de voir quelles sont les récurrences dans l'histoire. À chaque fois qu'on tient un discours où on suggère que, au choix, les Juifs ou aujourd'hui les Juifs à travers Israël auraient un contrôle sur le monde ou sur la situation plus grand que celui des autres, et ben en fait on ouvre une boîte de Pandore antisémite, parfois même sans le savoir et sans être soi-même antisémite, mais on ouvre une boîte de Pandore qui a des répercussions terribles, et il faut entendre ce que ça crée dans la psyché de beaucoup de gens qui l'entendent, qui le voient. Moi, très souvent ces dernières semaines, j'ai perçu que beaucoup de gens considéraient que ma peur était une forme de paranoïa, qu'elle était exagérée.
Arrêtez de voir de l'antisémitisme partout, Delphine Horvilleur. C'est des mots que vous avez entendus.
Je les ai entendus, des gens qui relativisent, et on a beau leur dire « Très bien, j'adorerais ne pas en voir partout, mais comment expliquer 1000% en France d'augmentation d'actes antisémites ?» 1000% d'augmentation des actes antisémites. C'est un chiffre qui est tellement dingue, excusez-moi, qu'à un moment donné, il ne veut plus rien dire, compte tenu du faible nombre de juifs en France. Qu'est-ce qui fait que tellement souvent ça ressurgit dans le discours? Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, en marge d'événements qui n'ont rien à voir ni avec le Proche-Orient, ni avec Israël, ni avec les juifs, l'antisémitisme surgit? À titre d'exemple, en France ces dernières années, en marge des manifestations anti-vax, en marge des manifestations des gilets jaunes, c'est-à-dire de contestations populaires de politique vaccinale ou de politique gouvernementale, qu'est-ce qui fait qu'à bracadabra, la haine des juifs surgit en marge de ces manifestations, alors que, pardon, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute, le schmilblick, c'est-à-dire que tout à coup, on a l'impression qu'une parole antisémite se libère dès qu'il est question de pouvoir, de puissant, de contrôle des élites.
Ouais. Vous voyez, mais il y a aussi des évolutions que vous pointez dans votre texte, Delphine Horviller. Vous dites qu'aujourd'hui, le juif est devenu un mal qui fait mal. Vous écrivez à un moment « Le monde m'a sérieusement virilisé dans son discours ».
Oui, et ça aussi c'est surprenant, il faut l'entendre dans l'histoire, très souvent le juif a été féminisé, c'est-à-dire que quand vous regardez les caricatures antisémites, vous voyez qu'on a toujours considéré que le juif, il manquait de virilité, on l'accusait d'aimer le pouvoir, les puissants, l'argent, d'être lascif ou hystérique, c'est-à-dire autant de qualificatifs qu'on attribuait de façon misogyne aux femmes. On craignait les femmes ou on méprisait les femmes, exactement comme on craignait ou on méprisait les juifs, particulièrement dans des temps où on encensait la virilité. Quand on voulait un leader viril, alors on s'attaquait aux juifs comme pas assez viril, comme un peu trop féminin, n'ayant pas de force, pas d'armée, pas de souveraineté. Et voilà que, abracadabra, dans un temps où on choisit, et heureusement, le droit des femmes comme un combat prioritaire, le droit des minorités sexuelles, alors là, il se passe un chamboulement fou, c'est que tout à coup, le juif devient le mâle alpha, le puissant, celui qui a un contrôle très très viril de la situation, et le soldat israélien musclé devient la figure de ce juif qu'il faudrait haïr. Et tout à coup, on voit surgir dans les manifestations féministes, on l'a vu ces derniers jours, un peu partout en Europe, des drapeaux pro-palestiniens et des slogans qui disent que la lutte palestinienne est une lutte féministe. Vous voyez cette espèce de réduction, simplification du conflit, comme si c'était une guerre des sexes, comme si les Palestiniens étaient quoi qu'ils soient et quoi qu'ils fassent des femmes, et que les Juifs ou les Israéliens étaient quoi qu'ils fassent, encore une fois, même quand ils sont des femmes violées ou kidnappées, ils seraient un peu trop masculins pour qu'ils méritent la défense du mouvement féministe.
Et donc, vous dénoncez le silence, l'attitude de certaines féministes aujourd'hui, Delphine Horviller ?
Oui, je pense qu'il y a une trahison à la subtilité, mais une trahison aussi à l'engagement féministe. L'engagement féministe doit pouvoir être aux côtés des femmes, de toutes les femmes, au nom de l'universalisme, toutes les femmes qui souffrent. Et effectivement, il y a là une trahison, un abandon de certaines d'entre elles. Pourquoi défendre toutes les femmes, sauf celles qui vivraient aujourd'hui en Israël? Quelle est donc cette exception-là? Qu'est-ce qui pourrait bien la justifier? Rien du tout. Il y a là une trahison. Et c'est d'autant plus surprenant, cette faille de subtilité, à mon sens, que le mouvement féministe ces dernières années s'est beaucoup illustré par une invitation à sortir de la binarité, du soit l'un, soit l'autre. Vous connaissez tous ces discours sur le genre, sortir des simplifications binaires pour reconnaître qu'il existe un entre-deux, plus de subtilité dans nos identités. Et voilà que cette invitation à la subtilité concernant le genre disparaît complètement quand il s'agit d'être subtil politiquement, de reconnaître qu'il n'y a pas des gentils et des méchants, qu'on n'est pas dans un western, il n'y a pas des forts et des faibles, mais il y a de part et d'autre des gens qui souffrent et des gens qu'il faut pouvoir défendre dans leur vulnérabilité.
Avec tant d'autres, je cherche les mots, ceux qui diraient vraiment aux Palestiniens et aux Israéliens que jamais leur douleur ne me laissera indifférente, que l'on peut et l'on doit pleurer avec les uns et les autres, mais le propre de la guerre est d'assassiner le langage en même temps que les innocents et la subtilité. C'est ce que vous écrivez, Delphine Horviller. La guerre tue le vocabulaire ?
Oui, je pense que c'est un des effets collatéraux des combats, c'est que on sait plus parler, que quelque chose dans nos mots devient défaillant. Je vais vous donner un exemple de ça à travers un mot qui m'est devenu insupportable, un mot en quatre lettres. C'est le mot « mais », la conjonction de coordination « mais », que les gens mettent à toutes les sauces. Moi, je l'ai entendu de part et d'autre, dans un engagement ou dans un autre, des gens qui vous disent « c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ». Des femmes ont été violées, il y a eu une utilisation du viol comme arme du Hamas, mais Des enfants palestiniens meurent, mais. Certains sont des boucliers humains, mais. Ce mais, il cherche toujours, de façon abjecte dans le discours, à relativiser ou à minimiser la pleine empathie avec l'autre. C'est comme si tout à coup, ce qui lui était arrivé, sa douleur, l'horreur de ce qu'il vit, pouvait être complètement relativisé par un contexte et une chaîne de causalité qui rendrait les choses un peu moins graves ou un peu
c'est
plus
supportables. C'est une micro-lâcheté, en fait, ou une lâcheté tout court, ce mais, selon vous ?
Oui, c'est une façon peut-être de nous rassurer, de pouvoir à nouveau nous raconter l'histoire comme on aime se la raconter, à savoir, en ce qui concerne le Proche-Orient, au choix comme un match de foot ou comme un western. C'est-à-dire un match de foot, on aurait choisi une équipe et depuis les gradins, on hurlerait nos insultes à l'équipe d'en face.
Et on soutient un camp ou un autre.
Oui, un western, c'est très simple, c'est formidable à regarder parce que c'est assez clair dès le début qui sont les gentils et les méchants, les forts et les faibles. Et ça vous évite, encore une fois, toute grille de lecture où il y aurait un peu de gris entre le noir et le blanc.
Sauver le langage, sauver les mots, c'est sauver des vies donc, selon vous ?
Oui, j'en suis de plus en plus convaincue. Il y a une phrase dans le livre qui m'a été reprochée parce que des gens m'ont dit qu'elle semblait très niaise ou un peu cucu la praline. Je dis que je ne crois pas que la paix viendra grâce aux généraux ou aux militaires, mais plutôt grâce aux poètes. Alors ça peut sembler absurde et ridicule, mais dans le fond, je crois que j'y crois assez. Je crois que plus que jamais, il faut se poser la question des mots qu'on utilise. Ce que font les poètes, c'est d'agrandir le pouvoir dire d'un mot. C'est-à-dire que tout à coup, une phrase, sa puissance du dire, sa possibilité de sens, elle est décuplée dans la poésie. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait pratiquement, dans chaque mot qu'on utilise, se poser la question de quel effet il a sur le monde. Quels sont les mots qui nous font du mal ? Quels sont les mots qui nous font du bien ? Quels sont les mots qui nous rendent plus grands et plus humains ? Et quels sont les mots qui font de nous des gens médiocres ?
Comment vont vos grands-parents ? Je me pose la question après avoir lu votre livre. Est-ce que vous conversez toujours avec eux ?
Bon, mes grands-parents sont décédés depuis longtemps maintenant, donc en fait ils vont dans ma tête avec plus ou moins de force selon les événements. En fait, ce que je raconte dans ce livre, c'est que mon grand-père ou ma famille paternelle, de façon générale, m'a enseigné la confiance en l'autre et une identité juive très installée, très confiante, sereine et assimilée.
On confiance pourrait dire, d'une certaine manière. Que vous avez peut-être perdue aujourd'hui, c'est l'une de vos craintes.
Oui, parce que la voix de mes grands-parents maternels, eux qui étaient une voix apatride, une voix déchirée, une voix endeuillée, était la voix de la défiance, une voix qui m'enseignait dès mon plus jeune âge qu'il fallait faire attention parce que tout ça pourrait recommencer et que peut-être la personne que vous pensez capable de vous protéger sera celle qui demain vous dénoncera ou ne sera pas à vos côtés. Et leur traumatisme, effectivement, a réverbéré fortement dans ma tête. Mais pour l'instant, cette voix-là, cette voix de la défiance et de la douleur parle très fort, mais je veux croire que l'autre voix saura reprendre le dessus, celle qui invite au dialogue et à la confiance, parce que sinon c'est totalement désespérant.
Tenez, écoutez encore ça.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer.
Anne Sylvestre, bien sûr, avec Les gens qui doutent, chanson que vous aimez et que vous citez, Delphine Horviller. Ça manque de gens qui doutent à notre époque ?
Terriblement, en fait. Des gens qui ne sont pas enfermés dans leur certitude, ils deviennent plus difficiles à trouver. L'an dernier, je reviens une seconde sur Sciences Po, cette grande maison Sciences Po à Paris, une grande maison de l'enseignement à Paris. J'ai eu la chance d'être invitée à donner le discours d'ouverture de universitaire l'année dernière et j'avais dit aux étudiants que pour moi, la définition du fanatisme, quel qu'il soit, pas juste religieux, mais aussi politique, la définition qu'en donnait l'écrivain Amos Oz, l'écrivain israélien Amos Oz, il disait qu'un fanatique, c'est quelqu'un qui ne sait compter que jusque un. Quelqu'un qui n'a que une opinion, une idée, qui n'a lu souvent qu'un livre ou qui n'en a qu'un qui soit sacré, qui n'a qu'un interlocuteur. Et je pense que voilà, il faut aujourd'hui entendre comment ces avis monolithiques, affirmés et indubitables se sont emparés de nos mondes.
Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre ? C'est votre nouvel essai, Delphine Horviller. Vous restez avec nous.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Et j'espère que vous êtes en forme. La rabbin Delphine Horviller et l'écrivaine Nathalie Skovronek sont nos invités cette semaine avec vous. Nathalie, nous allons dans 3 minutes gratter le vernis de la normalité. Mais d'abord, c'est en toutes lettres. Et c'est avec vous, Gilles Bartholin.
Cher Aya Nakamura, celles et ceux qui n'écoutaient pas votre musique vont entendre parler de vous. En quelques jours, vous êtes devenu, comme vous dites, un sujet d'État numéro un, essuyant par dizaines des javelots de racisme depuis que vous êtes pressenti. Choix du président français pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en juillet et que ce serait de votre choix, Édith Piaf. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. On a lu ça. Pourquoi cette haine ? Parce que vous ne chanteriez pas français, parce que vous seriez vulgaire. Seulement ça, non, bien sûr. Vous êtes noire et vous êtes une femme. Et vous venez du Mali, pays musulman. Le monde des raccourcis est petit. Femme noire, franco-malienne, mais ce n'est pas tout. Vous êtes plus grande que la plupart des hommes blancs. Et puis c'est un peu ces récits médiévaux où la fille aux manières de palais en veut à mort à la beauté naturelle de la fille des champs. Vous avez une forme de grâce qui leur est étrangère et qui, à la seule annonce d'une chanson pour un événement planétaire, dévoile au monde entier leur laideur intérieure. Cher Aya, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière dans l'histoire des hommages et des cérémonies. Vous seriez une licorne que ça ne changerait rien. On n'est pas à une contradiction près avec ces gens-là. Ils ont oublié qu'Édith Piaf, incarnant pour eux si bien l'esprit français, a comme vous des ascendances nord-africaines. Elle d'une famille circassienne, vous d'une famille de griots, de bardes. Mais puisqu'ils prétextent la langue française comme fondement de l'identité nationale, parlons-en. Vous mêlez argot, verlan, anglicisme, arabisme, style phonologique qui ajoute ou amortit des syllabes et fait mélodie orale. Faut leur dire, chère Aya, y a pas moyen, laissez-les faire leur mala, ignorez les sebabtou, à eux l'artchoum. Vous êtes genk, restez genk, chère Aya. Ghosté, badé, crush, sont dans le Robert et le Larousse baromètre de la langue des vivants. Les tristes cires auraient-ils oublié que le génie littéraire qu'est Céline n'a cessé de tordre la langue, d'oraliser l'écriture lui aussi, ce même Céline dont il goûte les pamphlets antisémites. Chère Aya, la langue comme patrimoine est une crispation morbide. Il y a pour moi un point de rencontre entre votre emploi de la langue, votre langue à vous, la langue de la terre du milieu, et ce lieu avéré de la langue française, la littérature. Combien de définitions saines de la littérature ne disent pas qu'écrire, c'est trouver une langue dans la langue. Sinon, comme dit l'écrivain Philippe Jaénada, après Deleuze, ça s'appelle écrire à sa grand-mère. C'est très bien d'écrire à sa grand-mère, car c'est une chance d'en avoir une. Mais ce n'est pas de la littérature volontaire. La littérature aussi se forme à la marge de la langue commune qu'elle emprunte pour raconter l'état du monde, un amour, un destin. Et souvent, ça commence par écrire la langue de l'autre, ou une langue qui est à soi, mais qui va parler à l'autre en lui créant une étrangeté à l'intérieur de sa propre langue, une langue littéraire, un langage poétique. Ce n'est pas un patrimoine, c'est une patinoire. On glisse, on voltige, on tente un saut, on se tient les uns les autres pour s'assurer du tour de langue. On fait des tours de langage, voilà, et on lui joue des tours. On lui retourne l'énigme dont il est constitué, on fait buter l'ordre de ses puissances. Il n'est pas question d'essayer de bien écrire la langue au nom de ceux qui estiment en détenir les clés. Il est question de faire dérailler le train des mots, car sinon ils font quoi ? À part reconduire les dominations et nous emmener Dieu sait où. Cher Aya Nakamura, vous êtes trop chanmé pour vous laisser tuiler. Ils sont en PLS, laissez-les baver, laissez-les coasser. Et le soir du 26 juillet, souhaitons-leur un arrêt du coffre. Gilles Bartholins.
Gros crush pour votre lettre, Gilles. Elle est à écouter, à lire et à partager via notre site lapremière.be. Et nous poursuivons avec ceci.
Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade.
Mon mal-être à côté, c'est de la gnognotte, pas raisonnable de le prendre au sérieux, pas très décent non plus, ne pas se tromper de peine, ne pas confondre. Au Saule, c'est différent, les cartes sont connues. Chaque atelier, chaque texte partagé rappelle où l'on est. Personne n'a à cœur de se revendiquer normal, le qualificatif même leur ferait hausser les épaules. Ils n'en sont plus là, personne sauf moi bien sûr. Je crois encore que je suis l'animatrice et que j'excelle à jouer mon rôle. C'est ce que vous écrivez écrivait Nathalie Skovronek dans La Voix des Saules, votre nouveau texte d'une si grande délicatesse. Vous avez, il y a quelques années, animé des ateliers d'écriture en milieu psychiatrique, 2 heures par semaine dans un centre de jour à Bruxelles. Et à l'époque, vous l'écrivez noir sur blanc, vous alliez mal. Je restais, écrivez-vous, à la lisière d'un mal-être qui ne disait pas son nom. Vous étiez en pleine séparation, vous parlez même de vos cuites médicamenteuses. Vous vous rassuriez en enchaînant les séances de yoga et en répétant en boucle la formule « je gère, je gère ». Et donc, à cette époque, malgré tout, Nathalie Skovronek, vous vous sentiez normale ?
Oui, je me sentais normale parce que je pensais que je pouvais donner le change. Et donc, à partir
faire
du moment
bonne figure,
où...
donner le change, je sais faire.
Exactement. Et donc à ce moment-là, je me trompais bien moi-même et je pensais que j'arrivais à tromper les autres. Et effectivement, j'ai animé ces ateliers. Je crois que je les ai bien animés. Donc il y avait une partie de moi qui était encore efficace, sur laquelle on pouvait encore compter et qui faisait son job, sauf que c'était au prix d'un mensonge, d'un refoulement énorme. Je pensais effectivement ne certainement pas avoir droit dans un lieu comme celui-là à laisser apparaître mes propres failles, jusqu'à ce qu'à un moment quelqu'un me dise, et ça résonne avec ce qui s'est dit dans la première partie de l'émission, on n'est pas là pour faire la compète. Et effectivement, chacun arrive avec ses histoires, ses parcours, ses failles, mais on n'est pas là pour les opposer, pour donner des bons ou mauvais points, pour faire un podium.
Mais cela dit... Vous disiez quand même, c'est à moi de représenter la normalité.
Ah, c'était mon rôle, c'était ma place. J'avais été assignée à cette place-là. C'était pour ça aussi qu'on m'avait fait venir, pas pour représenter la normalité, mais pour venir avec ce que je savais faire, qui était ma pratique d'écriture. Et donc, je suis venue avec un côté un peu même... un peu maîtresse d'école. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un tableau dans ma chambre. J'adorais jouer à maîtresse d'école. Donc, je suis arrivée avec cette idée-là. Et ça n'a pas tenu 10 minutes, en fait. Dès mon premier rendez-vous avec ces gens-là, autour d'une table, je suis entrée dans la pièce. Évidemment, ça résonne encore. Et j'ai dit, ben alors, comment ça va ? Ouais. Comment ça va ? Espèce de phrase qu'on se dit tous à bout de champ. Voilà, la question ne veut rien dire et la réponse est à peine écoutée. Sauf que là, j'ai compris qu'on était dans un endroit où... Alors, bien portant, normal, pas normal, on est à Bruxelles, on est au cœur de la ville, on n'est pas dans des lieux cachés, on n'est pas dans des hôpitaux avec... un grand parc devant pour que vraiment les choses soient bien isolées. On est au cœur et pourtant quand on pousse cette porte-là, eh bien tous les artifices de la normalité, de la espèce de un peu de désinvolture aussi parce qu'on fonctionne, parce qu'on sait comment faire, parce qu'on sait plus ou moins tenir les rênes d'une conversation. Eh bien tout ça s'est effondré vraiment en quelques minutes. J'ai mis beaucoup plus de temps à accepter cette défaite-là de ma normalité. Mais tout était déjà là
parce que vous étiez
instantanément.
Parce que vous étiez, Nathalie Skovronek, face à des personnes qui, et vous l'écrivez, ont cessé depuis longtemps de jouer le jeu de la comédie sociale.
Mais oui, parce que c'est des personnes qui sont tombées, qui sont fragiles, qui ont accepté finalement leur... déclassement d'une certaine manière et qui sont suffisamment autonomes pour vivre dans la vie de tous les jours et ont passé une sorte d'accord avec ce centre-là qui est vous venez 2 à 3 fois par semaine suivre un atelier de type artistique, vous honorez quelques rendez-vous psy, médicaux, assistantes sociales, voilà. Donc vous n'êtes pas lâchés dans la nature, vous venez remplir ces choses-là. Et quelque part, voilà, en échange, ça vous permet d'être dans cette espèce de lieu intermédiaire. On n'est pas à l'hôpital, on n'est pas non plus tout à fait dans la vie normale. On n'est pas tout à fait dans la vie normale dans le sens où souvent on ne travaille plus, où souvent ils ont des familles éclatées, enfin où finalement la maladie mentale ou la fragilité mentale a cassé énormément de choses dans leur vie à eux. Et donc il y a cet entre-deux qu'on leur propose. Et donc moi, je me suis retrouvée en face de ces gens-là qui savent qu'ils sont dans cet entre-deux. Il ne faut plus leur raconter d'histoire. Ils savent d'une certaine façon, qui sont arrivés à un point de non-retour, qui est un point qui n'est pas dégradant, qui n'est pas catastrophique, mais c'est un endroit où ils savent que la route n'est plus droite et que ça peut vaciller à n'importe quel moment.
En ne faisant pas semblant, il me libère de la mise en scène réglée de mon ancienne vie où je m'étais imposé de vouloir être parfaite. Vous n'êtes plus parfaite donc aujourd'hui, Nathalie Skovronek ?
Ben, je ne l'étais pas avant non plus, juste que j'essayais d'y croire. Non, mais c'est ces idées de perfection, de performance, d'arriver comme ça, comme un espèce de monolithe qui bien accroché sur ses deux jambes.
Mais qui vous ont accompagné presque pendant un demi-siècle.
Avec le recul, je n'en reviens pas finalement de m'être à ce point enfermé dans cette croyance-là, que c'est par là que ça devait passer, évidemment. Et donc cet événement
dans
ma vie...
Vous êtes normale, Nathalie Skovronek ?
Je suis bien portante, ce qui est quand même une grande chance. Je ne fonctionne pas trop mal, mais je suis probablement comme énormément de gens, terriblement fragile et vulnérable. Et en fait, ça va beaucoup mieux une fois qu'on est capable d'accueillir ça.
Qu'est-ce qui s'ouvre en fait ?
La possibilité de ne pas apparaître sous son meilleur jour, la possibilité de dire des choses qui ne sont pas tout à fait cadrées, la possibilité de pas être formidable à temps plein,
Mais parfois quand même.
Oh, parfois quand même. Non, je vais bien aujourd'hui, je vais mieux que le monde. Non, j'ai accepté tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on veut tellement être finalement dans le contrôle des choses, dans le contrôle de soi, dans le contrôle même de ce que l'autre va dire, que finalement on dit quelque chose pour que l'autre réponde en face de ce qu'on vient de dire. Enfin, on est vraiment comme ça dans un système de super performance. On devient aussi quelque part addict à la gratification. Si on est toujours au bon endroit, au bon moment et d'une humeur égale, bon, mais forcément, on va nous renvoyer des choses plus agréables que si on devient ce que je suis devenue un petit moment, heureusement assez court, mais une sorte de furie qui avait perdu la boule, oui.
Vous êtes normale, vous, Delphine Horviller ?
Je ne sais pas trop, non, effectivement, ce que ça veut dire. Je crois que la normalité, comme Nathalie l'écrit très bien, c'est une sorte de conscience de vulnérabilité, en fait. Moi, je trouve que c'est très anormal de se croire solide, en fait, au bout du compte, mais qu'on est dans des sociétés où on pense qu'il faut être fort et performant et parfait et exemplaire. Souvent, d'ailleurs, je trouve que... Enfin, moi, beaucoup de femmes en témoignent autour de moi, peut-être encore plus que les hommes, du sens du devoir, de tenir bon, d'être fort, dévoué pour les autres. Et quand tout à coup la faille est là, et l'effondrement est d'autant plus douloureux, et alors que pourtant on devrait tout le temps se rappeler que c'est notre vulnérabilité qui fonde notre normalité humaine. C'est parce que justement c'est un peu fêlé, un peu cassé, comme dit Leonard Cohen, que la lumière passe.
Ouais. En vous lisant, Nathalie Skovronek, on se demande, en fin de compte, qui a soigné qui ?
Mais c'est là, effectivement, que la rencontre se passe, et c'est là tout l'intérêt. Il y avait cette idée-là du guérisseur blessé. C'est que probablement qu'il faut être déjà soi-même à l'écoute de ses propres failles pour pouvoir entrer comme ça en résonance avec les autres. Et donc, évidemment que eux m'ont incroyablement aidé et soigné et amené à un autre endroit. Hélas, est-ce que je peux dire dans l'autre sens que moi je les ai soignés, je leur ai apporté des choses, on a fait un long moment ensemble qui a été vraiment la chose la plus riche que j'ai traversée dans mon parcours dire professionnel, mais est-ce que moi je peux vraiment les amener ailleurs ? Est-ce que quand on arrive dans ces endroits-là, est-ce qu'à un moment donné on peut rattraper la voie normale ? Et ça, c'est une grande souffrance pour moi. C'est qu'on peut, on accompagne, on met des mots, on ouvre les imaginaires, parce que l'écriture c'est quelque chose de vraiment miraculeux. On s'autorise, on écrit des textes, eux écrivent des textes, ils commencent à rire de leurs textes, ça devient très drôle, ça devient loufoque, ça devient, oui, c'est une vraie conquête à la fois de sa fantaisie, de sa liberté, de son imaginaire et aussi de se remettre en contact avec des émotions. Donc tout ça a eu lieu. Est-ce que je les ai soignés autant qu'ils m'ont soigné ? Je ne sais pas.
Mais vous dites que vous leur avez peut-être tout de même apporté le sens des métaphores. Voilà ce que je m'efforce de leur apporter au Saule. Le sens des métaphores, ce n'est pas grand-chose, c'est le seul langage que je pratique. Je me dis que peut-être cela leur offrira une brève échappée, un contrepoids aux prisons mentales.
Oui, évidemment, je crois au livre, je crois à la langue, je crois à l'écriture. Je pense que ce sont des endroits effectivement où les barrières sautent, où des connexions se font, où un vrai échange profond peut avoir lieu. Et la métaphore, avec mes outils qui sont les miens, c'est la meilleure façon pour moi. Enfin, c'est une façon absolument, c'est miraculeux de pouvoir être à un endroit et par la force d'une image aller ailleurs et se déplacer encore une fois.
Ne plus se retourner, oser le grand saut, à mon tour maintenant. Le programme était déjà inscrit dans la dernière phrase de mon premier livre, mais le grand saut annoncé s'est fait attendre. Mon texte avait pris de l'avance. C'est ce que vous confiez à la fin de votre livre, Nathalie Skovronek. Je me suis demandé, est-ce que vous n'auriez pas tout intérêt à relire le contenu de tous vos précédents livres pour lire votre avenir en fait ?
En tout cas, je suis lente et c'est vrai que les livres, et à partir du moment où il y en a quelques-uns, ça fait une espèce de cartographie mentale comme ça.
Mais c'est comme si vos livres en savaient plus sur vous que vous-même.
Je le crois vraiment. Je crois vraiment que l'écriture a de l'avance sur nos pensées, parce que pour écrire, on accueille justement des images, des fantômes, des voix. Il y a toute une forme d'inconscient, en tout cas tout un endroit de moins grand contrôle qui vient irriguer comme ça l'écriture. Et donc, qui annonce des choses. Dans mon cas, moi, la vraie vie a mis du temps pour rejoindre cette espèce de plus grande liberté de penser et plus grande acceptation de sa vulnérabilité qui était présente dans les livres et qui n'arrivait pas à s'exprimer dans la vie.
Je lis encore un extrait de votre livre. Un homéopathe m'avait dit plusieurs années plus tôt, comme on énonce une prophétie, « Le changement, c'est un cadeau que la vie nous fait. Le changement ne venait pas, j'étais toujours aussi empêché. » Aujourd'hui, vous faites l'éloge du changement, Nathalie Skovronek ?
Je fais certainement l'éloge de ne pas s'entêter, s'enfoncer dans quelque chose qui ne convient pas. Je fais l'éloge de l'inconnu, d'accepter mon premier livre. Justement, c'était une citation de Paul Éluard qui était en exergue, qui disait « Tout à perdre, je me vois vivre ». Alors, j'ai compris, ça a des résonances personnelles, politiques, enfin ça irrigue dans plein d'endroits. C'est tout ce qu'on perd à ne vouloir pas perdre.
Dans vos livres, vous parlerez de nous. Ça, c'est une question qui vous a été adressée par José lors des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, le livre, il est en librairie. Vous savez s'il a été lu, s'il va être lu par les personnes concernées ?
Alors, je vais les rencontrer d'ici dans 15 jours, 3 semaines. Donc, le livre est là-bas et donc on va échanger ensemble. Et comme on sait bien, chacun après a sa propre perception des choses. Donc, je ne sais pas comment ils vont lire le livre. Je ne le sais pas encore. Et en tout cas, je vais les rencontrer pour le savoir. Ce que je sais déjà, c'est, et ça m'a terriblement touchée, c'est la joie immense que j'ai sentie quand je leur ai dit que le livre paraissait. Et donc, cette idée que cet endroit enfoui, cet endroit de l'ombre, cet endroit où il se passe vraiment des choses très dures et aussi très belles, eh bien, allait avoir un livre dans lequel il allait exister. Et là, je les ai sentis, heureux, je crois, si je peux parler pour eux.
La voix des Saules, une voix à écouter, peut-être à suivre pour se permettre de se décentrer. C'est votre nouveau livre, Nathalie Skovronek. Vous restez avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
C'est sympa de vous savoir, Lala Rabin, Delphine Horviller et l'écrivaine Nathalie Skovronek sont nos invités cette semaine. Et elles frissonnent quand elles entendent certaines sonorités en particulier. Vous, Delphine Horviller, c'est quand ceci surgit.
Frankreich meine Land von Kinderjahren feine, durchgelebt und sorgen deine.
Mais oui, c'est un air connu, c'est Douce France, bien sûr, chantée en yiddish par Dave, Delphine Horviller.
Oui, ça peut sembler surprenant. C'est une adaptation qu'a fait Eric Slabiak, qui dirige un groupe, Joseph Joseph, de la célèbre chanson chantée par Dave. Et je trouve que voilà, elle raconte bien, en tout cas pour moi, ce qui a été l'attachement de ma famille yiddishisante, parlant yiddish et immigrée en France à la promesse française.
Et vous, Nathalie Skowronek, vous avez opté pour ces sonorités? Vous vouliez écouter des bruits de pas sur des feuilles mortes ou sur du bois sec, Nathalie?
Mais oui, c'est ma grande nouvelle aventure qui est cette reconnexion à la nature où je marche beaucoup, j'entends plein de choses que je n'entendais pas avant, comme si tout un invisible, là, en une fois, se mettait en mouvement. Et j'adore cette sensation des feuilles mortes, là, comme ça, qui grattent. Je trouve ça très enveloppant et très beau.
Et nous allons terminer avec nos choix culturels pour ce week-end. Gilles Bartholins, d'abord, que nous conseillez-vous ?
C'est le livre de l'historien Jean-Baptiste Fressos, Sans transition. C'est le titre, Une nouvelle histoire de l'énergie. C'est paru au Seuil en janvier 2024. Alors Fressos mène un travail de sape de nos bonnes consciences écologiques. D'abord de la prise de conscience écologique depuis les années 1970, alors qu'elle est présente depuis le XVIIIe siècle, recouverte ensuite par une désinhibition affolante à l'égard de la nature comme capital et ressource. Et dans ce livre en particulier, Fressos déconstruit le mythe de la transition énergétique en montrant que en fait, les énergies ne se succèdent pas dans le temps, charbon, électricité, pétrole, mais au contraire s'accumulent et s'articulent à des échelles toujours plus vastes et inquiétantes. Voilà, sans transition.
Et sans transition, Delphine Horviller.
Moi, je reviens sur un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Je suis en ce moment particulièrement attirée par la poésie. Je lis beaucoup de poésie. Je le conseille à tout le monde. Mmh. Alors, en ce moment, je lis un poète particulier qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien très connu. Ouais. C'est pour moi important de lire la poésie de celui qu'on pense être l'autre par rapport à soi et de quelle manière il y a un message tellement universel dans ces mots qui transcendent les encampements.
Nathalie Skowronek.
Eh bien moi, c'est un documentaire qui est en train de passer pour le moment sur Arte. C'est un film de Jacques Plaisant qui s'appelle « Dans le secret des hiéroglyphes, les frères Champollion ». Et on tourne toujours autour de la même chose. C'est une aventure assez surprenante, très très bien racontée sur comment Champollion va aller décrypter les hiéroglyphes. Donc comment est-ce qu'il va rentrer au contact d'une nouvelle civilisation? Comment est-ce qu'il va essayer de comprendre les mystères de cette langue-là? On est fasciné par ce parcours et aussi c'est un documentaire, c'est important de le dire, qui a vraiment trouvé une nouvelle forme entre à la fois des spécialistes qui expliquent, qui mettent en contexte et du dessin animé pour reconstituer des scènes d'époque. Donc c'est vraiment c'est fascinant.
Et de mon côté, cet artiste. Elle s'appelle Anna Wassim, elle a grandi au Maroc avant de venir étudier en France. Sa musique tisse des liens entre folklore, pop et électro. Dans La Vie de Star, son premier album, elle chante essentiellement en darija, un dialecte marocain. Laissez-vous traverser par l'univers d'Anna Wassim. Et à lire aussi, bien sûr, les livres de nos invités, Comment ça va pas de Delphine Horviller et La Voix des Saules de Nathalie Skowronek. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci pour ces conversations, si j'ose dire.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, Gilles.
Et merci, Pascal.
Bonne journée.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux. Ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.